Bombari. La journée mondiale de l'alimentation édition 2018 reportée à deux reprises est finalement annulée. Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2020, c'est possible. C'est autour de ce thème qu'est célébrée la 38e édition de la journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre 2018. En plus du thème de la FAO, un message du pape François a invité les États, le monde, à ne pas se contenter de recueillir des informations pour satisfaire notre curiosité. Nous devons prendre une douloureuse conscience, a dit le souverain pontife dans son message. Oser transformer en souffrance personnelle, c'est ce qui se passe dans le monde, et ainsi reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Fin de citation. Raison de plus pour la République centrafricaine, aux prises à une crise qui annihile les efforts de relance de l'agriculture, d'organiser la journée mondiale de l'alimentation. Comme elle l'a fait à Berberati dans la Mambéré KDI en 2017 avec FAST, même si c'était en différé. Outre les activités agro-pastorales, socio-culturelles, la journée de la femme rurale, le deuxième conseil des ministres hors de Bangui, de l'ère Touadéra, s'est tenu à Berberati. Tout le monde était en droit de revivre en 2018 cet événement à Bombari, chef-lieu de la Waka choisi par les autorités du pays. Un événement qui mobilise voire draine la population depuis André Kolimba, en passant par Ange Félix Patassé, François Bozizé jusqu'à Catherine Samba-Panza et Faustin Archange Touadéra. Circonstances obligent. Les contingences sécuritaires ont amené la Journée mondiale de l'alimentation 2018 de report en report jusqu'en janvier 2019. Bombari, ville sans armes selon les Nations Unies, on s'en souvient. Bombari, ville interdite d'attaque par la MINUSCA qui a fait partir Ali Daras, qui y a régné et a continué à le faire si l'on en croit les derniers événements. Bombari avait tout l'air d'accueillir la journée mondiale de l'alimentation. Puis, cette assertion s'éloignait progressivement, rendant la concrétisation dubitative. Et l'inévitable est arrivé le jeudi 10 janvier 2019. Tirs à l'arme lourde et légère, affrontement entre l'armée, la MINUSCA d'un côté, et de l'autre, les hommes de l'UPC d'Aline Daras. Deux policiers tués, des assaillants neutralisés, les différentes délégations débandades, les cérémonies sont suspendues d'après un communiqué laconique du porte-parole du gouvernement. Vendredi, deux Mirage français ont effectué un show-off force, un passage à très basse altitude, selon le porte-parole de l'état-major des forces armées françaises, le colonel Patrick Stégier, cité par l'agence France-Presse, l'AFP. Il y a eu une opération au sol de la MINUSCA sur Bombari pour en reprendre le contrôle et nous avons apporté un appui aérien, a-t-il précisé. Les deux mirages sont venus de N'Djamena au Tchad. L'opération des casques bleus vendredi a permis la destruction de moyens létaux et des barricades contrôlées par l'UPC. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Fallait-il prendre une décision à l'emporte-pièce d'organiser coûte que coûte la journée mondiale de l'alimentation à Bombari? Fallait-il qu'il y ait ces attaques, ces morts pour suspendre l'organisation de cette journée mondiale de l'alimentation? En déclarant Bombari ville sans armes, une zone avait été délimitée et contrôlée par la MINUSCA. Cette zone est-elle respectée? Existe-t-elle encore? Est-ce que les forces de sécurité intérieure ont-elles fait fonctionner les renseignements pour prévenir de telles attaques? Voilà autant de préoccupations et pour en débattre, nous avons Karl Blaguet, sociologue, observateur de la vie politique. Monsieur Blaguet, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous avons Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Monsieur Montero, bonjour.
Bonjour.
Nous avons monsieur Fari Tairuka Chabaz, porte-parole du RPR et secrétaire général adjoint. Bonjour.
Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Ndekeluka.
Il y a un invité qui va prendre le train en marche. Il s'agit de Joseph Bindoumi, magistrat, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Nous signalons en passant aussi que le gouvernement est invité, mais ne s'est jamais rendu disponible pour ce débat. À la technique, c'est Hermon Nambona. Au micro, Sylvie Panika, assistée de Armando Yanginji.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Merci, nous démarrons ce débat en commençant par le porte-parole de la MINUSCA, bien sûr, M. Vladimir Montero. Quelle est la situation sécuritaire exactement aujourd'hui à Bombari?
Le 9 janvier dernier, une patrouille de la MINUSCA s'était rendue dans certains quartiers de Bombari pour investiguer suite à des tirs par des éléments de l'UPC. Ces casques bleus ont essuyé des tirs
à leur tour
le 10 janvier. La ville de Bambari, surtout le PK0, a été visée par des tirs, notamment à l'arme lourde, des tirs par les éléments de l'UPC. Et donc, la MINUSCA, en coordination avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines, a donc lancé cette opération pour essayer de débarrasser la ville de ces éléments qui s'en prennent à la population, qui s'en prennent au casque bleu et qui sont responsables justement de cette insécurité ayant entraîné l'annulation de la journée mondiale de l'alimentation. C'est un comportement inadmissible. Et puisque le gouvernement et les Nations Unies sont engagés depuis fin 2016 à ce que Bambari soit le symbole de la restauration de l'autorité de l'État, une ville sans groupes armés, nous avons tenu à agir et à montrer à ce groupe que la seule voie aujourd'hui, c'est celle du dialogue qui a été annoncé par le chef de l'État et qui aura lieu à Khartoum le 24 janvier sous l'égide de l'Union africaine avec l'appui des Nations Unies.
Et quelle est la situation exacte en ce moment à Bambari?
Jusqu'à hier, à la mi-journée, il y avait des opérations qui étaient menées au sol avec nos casques bleus, avec les forces de défense et de sécurité. Et c'est le moment de rendre hommage aux deux FSI qui sont tombés. La mort a été annoncée en communiqué du gouvernement. Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de pertes concernant la MINUSCA. Il y a des pertes du côté de l'UPC, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a eu des barricades qui ont été détruites. On a contribué à des extractions de responsables, mais également de citoyens lambda qui étaient pris en otage suite à cette opération. Et tout en menant cette opération, la situation s'est calmée, mais elle reste imprévisible parce qu'il y a des gens qui restent armés. Nous poursuivons ce travail en même temps. Nous demandons à la population, aux communautés de Bambari de ne pas céder à la panique. Il y a déjà des manipulations, des gens qui disent que la MINUSCA aurait détruit la mosquée lors de ces opérations. C'est complètement faux. Il y a des vidéos qui circulent montrant des images qui ne correspondent pas à la réalité. En ce moment, nous sommes avec les forces de défense et de sécurité pour une opération qui vise à restaurer l'autorité de l'État dans la capitale de la Ouaka.
Ok, nous allons faire un tour de table pour recueillir les avis de nos invités sur ces derniers événements qui se sont produits à Bambari. Nous commençons par Karl Blaguet. Que vous inspire cet événement malheureux?
Tout d'abord, je souhaite transmettre mes meilleurs voeux aux auditeurs de Radio Ndekeluka et à vous-même, Madame la Directrice. Et
merci.
Je pousse un cri de colère. Un cri de colère extrême par rapport à nos frères qui sont morts inutilement, que ce soit à Lindao, à Bakouma et maintenant à Bambari. Madame Sylvie Panica, je pense que c'est de l'amateurisme. Quand un chef d'État, et surtout quand une journée mondiale de l'alimentation, qu'on appelle dans le jargon habituel fête des moissons, doit se dérouler et qui a été reportée à deux reprises, je pense qu'il y a dû et avoir une mauvaise préparation. Surtout quand le chef de l'État et que le gouvernement doit se déplacer. Je pense qu'il doit y avoir une mission précurseur. Qu'on devait d'abord sécuriser le terrain, la localité, la sous-préfecture ou bien la préfecture. Si ce Daras qu'on a toujours caressé, qui se dit président de la Ouaka ou de Bambari, était là-bas avec ses hommes, la MINUSCA était au courant. Tout le monde était au courant. Mais pourquoi on a lancé le gouvernement, on a lancé les forces de défense, on a lancé les FSI pour aller organiser cette soi-disant GMA et qui s'est terminée d'une manière scandaleuse. C'est vraiment honteux. J'ai vraiment honte par rapport à ça, Madame Sylvie. J'ai honte. Ça, c'est ma réaction. J'ai vraiment honte. Honte vis-à-vis de la MINUSCA en qui je n'ai jamais eu confiance. En qui je n'ai jamais eu confiance à cause de leur connivence avec les éléments de l'UPC. Pourquoi on avait annoncé que non, la fête des moissons devait se dérouler à Bambari? Pourquoi on n'a pas dégagé ces malfrats de l'UPC pour sécuriser le terrain avant l'arrivée de la délégation gouvernementale? 1, 2, 3, la délégation du Premier ministre en allant a fait 3 accidents sur le parcours avant la barrière PK12 de la brigade de la gendarmerie. Et sur l'axe Sibut, il y a eu des morts. C'est un mauvais présage. Non, madame. Je pense qu'il y a eu de l'amateurisme. C'est dommage que la GMA 2018, qui a été reportée en 2019, se soit terminée en queue de poisson. Et ça donne la force aux ennemis de la nation. Parce que pourquoi? Nous avons la réunion, comme l'a dit M. Montero, comme l'a si bien dit le porte-parole de la MINUSCA, entre le 20 et le 28, c'est à Khartoum. Mais après Addis Abeba et après Bangui. Mais déjà, ils occupent Bakouma. Ils font des coalitions. Ils ont osé attaquer une délégation gouvernementale par rapport à la fête des moissons. Attention, il faut qu'on se pose des questions. Et il faut voir ces alliances, c'était qui ? Quelles étaient ces forces coalisées ? Et pourquoi les Mirage 2000D qui ont décollé de la base de N'Djamena ? Parce que N'Djamena et Paris sont ensemble dans l'opération Barkhane et au niveau du Sahel. Ils ont décollé de N'Djamena pour venir survoler tout juste pour intimider. La MINUSCA dispose de MI-24. Je pense que l'armée sénégalaise dispose d'hélicoptères de combat MI-24 qui traînent inutilement ici au niveau de l'aéroport de Bangui. Pourquoi ces MI-24 n'ont pas géré cette situation avant l'arrivée de la délégation gouvernementale, madame ? Moi, je suis déçu. Mon sentiment, c'est un sentiment de colère, de révolte et de déception. Et de pitié par rapport à nos frères qui sont tombés inutilement, madame.
Et du côté du RPR, M. Chabaz, que vous inspire cet événement malheureux qui s'est déroulé à Bombari ?
Tout d'abord, permettez-moi de m'incliner devant les victimes de ce drame qui s'est déroulé à Bombari. J'ai une pensée émue particulière aux deux policiers qui ont laissé la vie, notamment le sous-brigadier Nguimal et le sous-brigadier Kazeta. Ce sont des hommes qui sont tombés, comme on dit, au combat. Vous savez, dans tout pays civilisé qui a l'aspiration de devenir démocratique, quand des hommes d'armes comme ça tombent, on les appelle des héros. Héros national, héros de guerre. Et en conséquence, quand on dit héros de guerre, il y a un minimum que l'État doit faire pour ces gens-là. On ne peut pas être héros de guerre, on ne peut pas prendre sa vie et mettre en danger pour le pays, pour le chef de l'État, pour les populations, et qu'en retour, on laisse des orphelins, des veuves, sans que le pouvoir ne réagisse. Alors aujourd'hui, je pense que je vais prendre à témoin la population centrafricaine. Le chef de l'État doit aujourd'hui montrer qu'il est chef de l'État. Des hommes sont morts pour lui, des hommes qui ont laissé des enfants et qui ont laissé des femmes. Le minimum qu'on puisse faire pour ces gens-là, c'est déjà de prendre en charge ne serait-ce que les obsèques. C'est le minimum. Ce qu'on doit faire également, c'est de prendre en charge les familles. On ne doit pas entendre demain que les enfants du sous-brigadier Nguimal ou bien du sous-brigadier Kazeta meurent de faim, sont expulsés de l'école, sont expulsés de leur maison, etc. Ils doivent être décorés. La moindre des choses, l'Ordre National du Mérite. Ils doivent également être décorés au niveau, justement, du ministère de la Sécurité Publique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui se passe à Bombari, je pense que c'est pas une surprise, en tout cas pas pour le RPR. Il vous souviendra qu'en 2017, le président Guendé avait lancé une pétition. Une pétition demandant à ce que tous les chefs de guerre, et plus particulièrement Ali Daras, soient neutralisés par le pouvoir, par la MINUSCA, parce que justement, ils sont les vecteurs de la dissémination de la haine et des violences. Cette pétition a recueilli plus de 800 000 signatures dans tout le territoire centrafricain. Ces Centrafricains demandaient au chef de l'État, justement, d'agir vigoureusement. Quelle a été la réponse du pouvoir vis-à-vis de cette pétition ? Premièrement, on nous a interdit de pouvoir faire une conférence de presse pour présenter les signatures. Deuxièmement, le pouvoir a pris en otage nos députés qui ont été débauchés de telle sorte que le RPR ne puisse plus interpeller le gouvernement sur cette question de Ali Daras au niveau de l'Assemblée nationale. Troisièmement, on a mis en place une commission d'enquête judiciaire pour incriminer le président Guendé, soi-disant qu'il serait derrière les événements de Ali Daras. N'oublions pas quand même que Ali Daras, à plusieurs reprises dans les médias, a soutenu le gouvernement. Il a réitéré à plusieurs reprises en disant que il était un fervent soutien du chef de l'État, de son action, du gouvernement. Le chef, le commandant suprême de la MINUSCA, le général Balaï Keïta, qui a révélé dans les médias nationaux comme internationaux qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État a demandé à ce qu'il escorte Ali Daras pour aller au niveau du palais de la Renaissance. Nous avons aujourd'hui le conseiller spécial du chef de l'État qui s'appelle Hassan Bouba, conseiller politique de Ali Daras, chef de l'UPC. Nous avons autour du chef de l'État des conseillers militaires russes dirigés par certains Zakharov qui sont aujourd'hui, on a vu des vidéos qui circulent sur Internet, voyant Zakharov autour de Ali Daras lui donnant des conseils pour pouvoir mettre en place un aérodrome. La fonction du chef de l'État a été totalement désacralisée. Donc, c'est un allié stratégique du pouvoir, Ali Daras, qui a agi à Alindao, qui a agi à Bombari. Et lors de ma dernière intervention ici sur vos antennes, j'avais déjà expliqué que au niveau opératif, nous avons des failles, des défaillances terribles. Vous voyez comment est-ce que les choses sont déroulées. Dès le mercredi, me semble-t-il, 21h, les combats ont commencé. Ils ont commencé de nuit. Et cette précision a son importance. La dernière fois, j'expliquais que au niveau des préparations militaires des mercenaires de l'UPC et du etc., il y avait un modus operandi qui était le même. Même mode d'opération avec les mêmes bataillons. Vous voyez que ils ont fait un très bon travail de préparation, de renseignement humain électromagnétique. Ils ont fait un bon travail de reconnaissance. ils ont fait un bon travail dans la tromperie et ils ont fait un bon travail dans la surprise. Ce que nous, au niveau de l'état-major, nous ne faisons pas parce que le pouvoir politique ne donne pas le moyen à nos FACA de pouvoir être opérationnels comme il se doit. Donc on a envoyé non seulement les FACA, non seulement les autorités, mais les populations civiles dans la gueule du loup alors que rien n'avait été préparé. Et là, je dis une chose. Il y a des gens qui sont aujourd'hui des civils qui ont été exécutés. Le pouvoir a quitté Bangui, mais la population qui sont là-bas. Est-ce que le pouvoir a prévu une sécurité? Est-ce que la MINUSCA a prévu une sécurité pour éviter les représailles? Parce que on les connaît, ces gens-là. Est-ce que toutes ces dispositions ont été prises pour sécuriser les lieux? Dans une manifestation de cette envergure où le chef de l'État doit intervenir, normalement dans tout pays qui est civilisé, qui est rationnel, on doit sécuriser sur au moins 20 kilomètres. Imaginez-vous qu'aujourd'hui on a des PM-37, des PM-41 qui lancent des offensives sur Bombaré. À peine 3 kilomètres de Bombaré. Ça, c'est inacceptable. Donc nous disons que il y a des responsabilités politiques, il y a des responsabilités militaires. Politiquement parlant, il est inacceptable que ministre de la Défense, ministre de la Sécurité publique ne rende pas compte. Il est inacceptable que monsieur, le chef du gouvernement, ne rende pas compte. Ils doivent prendre leurs responsabilités, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités, l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités en tant que institution dont la mission constitutionnelle est la surveillance, le contrôle de l'action gouvernementale. Une commission d'enquête parlementaire doit être mise en place. La commission de défense doit aujourd'hui auditionner le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité publique, le DG de la police, le DG de la gendarmerie, le chef d'état-major de nos armées. En plus de cela, l'Assemblée nationale doit aujourd'hui interpeller le gouvernement. Et interpeller plus précisément qui? Le chef du gouvernement, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité publique, monsieur le porte-parole du gouvernement pour les mensonges qu'il a proférés. Les mensonges qu'il a proférés en disant qu'il y avait la sécurité ont causé la mort. Il doit être interpellé par l'Assemblée nationale. Ça, c'est le minimum que nous puissions faire aujourd'hui. Voilà aujourd'hui la position du RPR et de l'opposition démocratique vis-à-vis des drames qui sont produits à Bombaré.
Je rappelle juste pour l'équilibre de ce débat, nous avons invité le gouvernement qui malheureusement ne s'est pas rendu disponible pour répondre aux préoccupations évoquées ici. Finalement, Monsieur Montero, la JIMA, Journée mondiale de l'alimentation, est annulée. N'est-ce pas une énième victoire encore des groupes armés?
Je voudrais d'abord réagir à certains propos de Karl Blaguet et de Farid Chabat. Surtout Farid Chabat, je pense qu'il n'est pas le représentant du gouvernement. Il ne peut pas parler des moyens qui sont donnés aux forces de défense et de sécurité. Lui-même, s'il accompagne, je suis sûr qu'il le fait, s'il accompagne les efforts du gouvernement, il saura tout ce qui est fait dans le domaine de la formation des FSI, des FACA, dans le cadre de l'EUTM, mais également d'autres partenaires, des efforts pour que soit levé l'embargo sur les armes. Donc, n'étant pas du gouvernement, je pense que ce ne serait pas correct de passer des informations qui ne correspondent pas à la réalité, à la population, et dire que ces hommes ont été envoyés dans la gueule du loup. Non, ils ne sont pas envoyés dans la gueule du loup. On a des opérations qui sont menées à Paoua avec des résultats, FACA MINUSCA. On a à Bangassou, FACA MINUSCA. On a à Bambari. On a à Bambari avec les FSI bien avant cette situation, n'est-ce pas? Donc, il y a des efforts du gouvernement. Je voulais rappeler cela. Par rapport aux accusations comme quoi la MINUSCA serait de connivence avec l'UPC, l'exemple actuel montre clairement que ce n'est pas le cas. Nous l'avons montré dans le passé et nous continuerons à le faire. Utiliser la force, frapper lorsqu'il le faut, comme nous l'avons toujours dit dans le mandat, mais en même temps, et vous le verrez dans le nouveau mandat de la MINUSCA, et cela en droite ligne avec cette mission Union africaine Nations Unies qui vient de se terminer, ce dialogue, et on saura qui veut véritablement, et là nous sommes d'accord, qui veut véritablement aller vers ce dialogue. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de leaders qui se disent prêts, qui rappellent l'importance de Khartoum bien avant que Khartoum ne soit annoncé. Et hier, Abria, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, l'a rappelé, personne n'est naïf, ce sera difficile, mais on saura ceux qui veulent aller vers le dialogue et ceux qui ne veulent pas aller vers le dialogue. Et ceux qui ne veulent pas aller vers le dialogue, ils auront la communauté internationale et ils auront d'autres moyens à disposition de cette communauté internationale pour faire pression pour qu'ils choisissent la voie de la paix qui est la seule alternative pour la République centrafricaine.
Vous n'avez pas encore répondu à la question, la victoire des groupes armés par rapport à l'annulation de cette JIMA.
Victoire des groupes armés, non, je ne pense pas. Tout à l'heure, le porte-parole du RPR parlait de bonne préparation de l'UPC, au contraire de ce qu'auraient fait les forces en face. Non, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que ces micros doivent être choisis et utilisés pour donner l'impression à ces gens qu'ils ont marqué des points. Ils ont marqué des points sur le plan négatif. Hein? Ils se sont grillés. Mais ils ont encore le temps. Ils ont encore le temps. Et c'est pour cette raison que l'appel a été très clair. Ils doivent s'inscrire dans cette logique de paix.
Oui, monsieur Blagui.
Ouais, je suis vraiment en colère, madame Sylvie Panica, par rapport à la réaction du porte-parole de la MINUSCA. La JMA, la Journée Mondiale de l'Alimentation, c'est-à-dire la fête des moissons, je pense que ça a été reporté à deux reprises. Et quand il y a une mission, une manifestation, quelque part dans une préfecture ou dans une sous-préfecture, je pense qu'il y a ce qu'on appelle une mission précurseur. Et comme ils savent tous qu'au niveau de Bombari, c'était une zone sous tension, je pense que la MINUSCA et les services de sécurité intérieure ont dû prendre des précautions pour envoyer une mission précurseur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que j'ai dit que c'était de l'amateurisme. Et je rejette en bloc la réponse de M. Montero qui dit que non, la MINUSCA n'est pas de connivence avec l'UPC. La MINUSCA est de connivence avec tous les groupes politico-militaires. Parce que si aujourd'hui la MINUSCA voulait arrêter... Je suis en train de parler, M. Montero. Si la MINUSCA voulait arrêter M. Darras, mais on arrête M. Ngaïsona, on arrête M. Rombo, on arrête beaucoup de gens de l'autre camp. Mais ceux qui sont là, qui tuent, qui brûlent des villages, qui brûlent des églises, qui tuent des prêtres, on les connaît, mais on dit, on va négocier avec eux, on va prendre l'avion, on les met en première classe. Ils sont à Khartoum, après Addis Abeba, après Bangui. S'il vous plaît, M. Montero, un peu de respect vis-à-vis des victimes en République centrafricaine. Je suis parent de victimes. Je suis parent de plusieurs personnes qui sont tombées, qui sont mortes. Qu'est-ce qui se passe en Dachima? C'est l'UPC. Maintenant à Bakouma, qu'est-ce qui se passe? Et entre-temps, dans les coulisses de la radio Ndekoluka, il y avait le porte-parole de l'UPC qui a osé dire que l'UPC, le FPRC ont été acclamés à Bakouma alors qu'ils sont allés tuer des gens, brûler des maisons et les gens ont fui pour aller à Bangassou. Mais ayez un peu de piété pour les victimes, monsieur Montero. S'il vous plaît, moi je dis que c'est de l'amateurisme. Si la journée mondiale de l'agriculture, la GMA, la fête des moissons devait se tenir à Bombari, devait y avoir des missions précurseurs, conjointes, MINUSCA, FSI, Force de Sécurité Intérieure. Si Darras et les éléments ont tiré, et ça s'est terminé en débandade, c'est qu'il y a eu de l'amateurisme. Et je pense que c'est pas un fait du hasard. De deux, s'il vous plaît, c'est un peu bizarre. On a annoncé le jour de la première rencontre. Parce que Khartoum, ça va pas être la finalité. Khartoum, c'est la première réunion. Après Khartoum, je pense que ça va être Addis. Et après Addis, ça serait à Bangui. Pour la conclusion. Mais vous trouvez pas bizarre que pendant ce temps, vous avez des incursions au niveau du nord-ouest, au niveau de Bétoko. Vous avez des éléments tchadiens qui rentrent, qui font incursion au niveau de Bakouma. Vous avez une coalition FPRC-UPC. Et à Bombari, les gens, justement, s'activent. Est-ce qu'ils veulent gagner du terrain pour peser lors des négociations? Parce que la MINUSCA n'est pas étrangère à tout ce qui se passe. Il y a les drones, il y a les hélicoptères de combat, il y a tout, mais on continue de tuer, on continue de violer, on continue de brûler des villages au niveau de la République centrafricaine. C'est ça mon exaspération. Excusez-moi, monsieur Montero, hein. Je suis en colère en tant que centrafricain parce que je ne suis pas d'accord et je ne comprends pas pourquoi, avec tous les moyens dont dispose la MINUSCA, ils n'arrivent pas à arrêter ces malfrats et ils discutent avec eux.
Oui, nous avons aussi fait le tour de la rue. L'homme de la rue aussi s'est prononcé sur cet événement malheureux de Bombari.
Merci, monsieur le journaliste. Ce qui s'est passé à Bombari, moi, je trouve ça, de mon part, à l'incompétence du gouvernement. Alors, pourquoi les compétences? Parce que le gouvernement doit prendre toutes dispositions avant de proclamer ou de décider d'aller fêter cette fête vers les zones où se trouvent les rébellions. Alors, ça n'a pas été le cas. Donc, moi, je trouve que ça, c'est une défaite de la part du gouvernement.
Ce qui devait se passer, c'est que le gouvernement devait prendre ses dispositions d'abord avant de pouvoir organiser cette fête. Le président, il est élu démocratiquement par le peuple. Il a le plein droit de donner des ordres qu'on doit exécuter. Mais je ne vois pas pourquoi des rebelles qui ne sont pas originaires de notre pays, qui viennent vraiment s'opposer au commandement du gouvernement, du chef de l'État. Ça ça ne devait pas se faire. Il avait le droit de prendre sa disposition ou dans le cas de contraire, il devait annuler ça et puis reporter ça à une date et bien dans une autre ville.
L'État centrafricain doit réorganiser les FACA employés dans les zones en conflit, de mettre la sécurité dans la ville de Bombari.
Cet événement qui vient de passer, moi je trouve ça d'anormal. Pourquoi d'anormal? En fait, moi je dirais qu'il y a une boycott que ces groupes rébellions sont en train de faire dans ce pays. Je dirais que c'est une lenteur pour le gouvernement parce que des choses comme ça, le gouvernement devrait prendre sa responsabilité.
Malheureusement, le gouvernement invité à ce débat n'est pas là et donc nous ne pouvons pas avoir les préoccupations qui lui sont destinées. Nous saluons l'arrivée de M. Joseph Bindoumi. Nous avons signalé tout à l'heure au début de ce débat. M. Bindoumi prend part aussi à ce débat en tant que magistrat, président de la Ligue centrafricaine de droits de l'homme. M. Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Le débat porte sur les derniers événements de Bombari. Nous avons fait un tour de table. Cet événement, à quoi cela vous inspire?
Je vous remercie de me poser cette question sur ce qui s'est passé à Bombari, qui d'ailleurs continue, puisque à ce jour, nous ne sommes pas sûrs que le calme soit totalement revenu à Bombari. On nous a dit que la ville a été libérée, mais nous pensons que si libérer la ville suppose que les malfaiteurs doivent aller se trouver à 1 kilomètre pour qu'ils reviennent encore dans la ville. Comme on nous avait déclaré que la ville de Bombari était sans armes, mais que finalement, une ville sans armes a été obligée de canarder des autorités. Ça, c'est une chose. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons été préoccupés par ce qui est arrivé à Bombari. Et je profite de votre micro pour présenter mes condoléances aux victimes innocentes de cette énième agression. Je dis que personne en République centrafricaine n'ignorait que ces choses-là pouvaient arriver. Il y a eu des signes annonciateurs, des communiqués de presse, à votre niveau, vous le savez, les discours prononcés, les actes entrepris, notamment l'attaque de Alindao, l'attaque de Ipi, l'attaque de Bakuma, le regroupement des forces négatives à Bamari, la terreur semée à Batangafo. Donc, vous comprenez que tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, tout le monde aussi a noté que la journée mondiale de l'alimentation qui devait avoir lieu au mois d'octobre a été repoussée. On nous a dit que c'était pour installer l'eau et l'électricité et aménager les habitations. Et nous sommes arrivés en novembre, on nous a dit qu'il y avait des petits travaux à finaliser. Quand décembre est arrivé, on nous a dit que non, tout est bientôt fin prêt et puis que ça se tiendra. D'abord, l'irrégularité ici, c'est que si on avait tenu cette fête de moisson en janvier, ça veut dire que pour la seule année 2019, on tiendrait 2 fêtes de moisson, puisque celle d'octobre 2019 était prévue pour Birao. Donc, vous comprenez qu'il y avait des choses qui étaient prévisibles et qui auraient pu nous dire, par économie de victimes, on aurait pu dire, puisque la menace est encore là, et puisque nous n'avons pas effacé cette menace-là, nous ne pouvons pas aller prendre beaucoup de gens pour aller les exposer de cette manière. Mais malheureusement, toutes les explications que la société civile a données, toutes les commissions qui ont été envoyées pour demander que les gens réfléchissent par 2 fois, ça n'a pas été écouté. Et puis, il y a eu Bombari avec tout son cortège. Mais hier, cette nuit, j'ai adressé mes félicitations à la MINUSCA. Je crois que Montero a certainement lu ce que j'ai fait. J'ai adressé mes félicitations à la suite de son communiqué de presse. Pourquoi? Parce qu'au moins une fois, les gens qui étaient sur place, notamment les informations concordantes, montrent que le contingent portugais a mis son mandat en exécution et a violemment repoussé les malfaiteurs. Et je pense que, par honnêteté intellectuelle, j'adresse mes félicitations. Mais ma crainte aussi, c'est qu'on a vu des actions comme ça d'éclat de la MINUSCA, mais qui en fait s'arrête à si bon chemin et puis laisse les victimes continuer de souffrir. Donc je pense que cette fois-ci, il ne sera plus question que Bombari redevienne une zone occupée par des forces négatives.
Monsieur Montero, en déclarant la ville de Bombari ville sans armes, une zone avait été délimitée et contrôlée par la MINUSCA. Cette zone est-elle respectée au jour d'aujourd'hui?
Fin 2016, lorsque nous sommes parvenus à éviter des affrontements UPCF-PRC pour la prise de Bombari, nous avons déclaré la ville sans groupes armés, pas ville sans armes, car vous connaissez la problématique de la circulation des armes, non seulement à Bambari, comme à Bangui, comme dans une large partie de la République centrafricaine. Malheureusement, il y a en face des éléments de groupes armés. Ce ne sont pas des éléments appartenant à une force conventionnelle, d'où la difficulté. Ce sont des civils qui se mêlent aux civils qui n'ont rien à voir avec ce conflit, qui manipulent, d'où les difficultés pour mener cette opération. Il a été question ici de missions précurseurs pour voir un peu les conditions. Évidemment, cela a été fait en étroite coordination avec notre appui mené par les autorités. Mais nous sommes en face, même si on avait mené cette opération bien avant, le risque de créer une certaine instabilité et de possibles attaques par des gens qui sont dans la foule serait extrêmement difficile. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que cette opération est en cours pour éliminer ceux qui s'opposent à la paix. Et le deuxième point, est-ce que ces groupes sont en train de chercher à renforcer leur position avant leur dialogue? Il faudrait certainement leur poser la question. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que tout le monde, non seulement les autorités centrafricaines et les forces vives qui ont été invitées à cette réunion avec les chefs d'État, mais aussi les voisins qui étaient là en masse, l'Union africaine, veulent aller vers ce dialogue avec, bien entendu, l'appui des Nations Unies. Et ceux qui s'obstineront à rester dans la violence, à tuer des civils innocents, nous agirons. Nous agirons comme nous le faisons ailleurs, nous agirons comme nous le faisons en ce moment à Bambari, et nous agirons ailleurs. Mais encore une fois, nous sommes dans une phase extrêmement importante. Le gouvernement, à travers le chef de l'État, a lancé officiellement ses pourparlers. Il faut que ces groupes, l'UPC, à Bambari, le FPRC qui occupe de manière illégale Bakouma et d'autres ailleurs qui continuent leur pression comme Siriri, cessent ces activités. Sinon, M. Lacroix l'a également dit, aujourd'hui, au contraire d'autres accords, nous avons une force qui pourra faire respecter ce qui a été signé.
Oui, Monsieur Chabaz, est-ce que aujourd'hui on peut dire encore qu'avec ce slogan de Bambari, ville sans armes, ce slogan a-t-il encore sa raison d'être?
Je pense qu'aujourd'hui, de Bambari sans armes ont devenu Bambari sans âme, si on voit la réalité des faits. Bon, je ne dirais pas, je me réjouis, mais en tout cas, maintenant, les choses sont claires. Je vois que Monsieur Montero, en fait, porte-parole non pas de la MUSCA, mais du gouvernement. Comme ça, on comprend pourquoi ce gouvernement n'est pas sur place. Non, je répète à Monsieur Montero, effectivement, le gouvernement centrafricain n'a pas suffisamment bien équipé nos FACA. Que vous le voulez ou non, c'est une réalité. Le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que, justement, il y a une défaillance. Personne ne peut aujourd'hui nous dire, à nous, centrafricains, qu'effectivement, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour éviter ce massacre-là. Ça, c'est une réalité. C'est le premier point. Le deuxième point, on nous parle effectivement, c'est vrai, hein, les forces spéciales népalaises et forces spéciales portugaises sont intervenues, mais je rappelle une seule chose, les forces spéciales népalaises et portugaises sont intervenues avec la composante aéromobile plus de presque 20 heures après le début des hostilités, vous comprenez, 20 heures après. Donc déjà, je le répète, au niveau de la chaîne de commandement, aussi bien au niveau chaîne de commandement d'état-major centrafricain, mais que chaîne de commandement des Nations Unies, on a un problème. Vous avez qu'il y a des contingents dont l'ordre d'engagement est différent. C'est-à-dire qu'il y a des contingents qui, sur le terrain, ont besoin de l'autorisation de leur pays pour pouvoir intervenir. Ça, c'est une réalité. Donc, vous voyez que avec un tel mode de fonctionnement, on ne peut pas avoir un résultat probant. Donc, il y a une défaillance technique au niveau de la MINUSCA. Ça, c'est clair. Il y a des morts. Le fait qu'il y ait des morts, déjà, suffit de démontrer qu'effectivement, il y a eu un problème. On ne peut pas aujourd'hui claironner partout que oui, effectivement, ça marche parce qu'on fait des formations. Écoutez, les formations, nous avons des FACA qui ont passé 15 ans, 20 ans de métier. Ils savent manier des armes. Quand on parle de recyclage, je veux bien, mais quand on ne parle pas de formation, et c'est bien de former les gens, mais sur le terrain, vous voyez ces voyous qui attaquent Bakouma, etc. Regardez les vidéos qui interviennent, voyez leurs équipements, voyez leurs armes. On nous parle d'attaques aux mortiers légers de 80 mm ou 81 ou 82 mm. Les jeunes qui attaquent au niveau du FRC, du UPC, du MPC, c'est des jeunes qui n'avaient pas d'expérience. Mais le fait qu'ils multiplient les attaques, ça leur donne une discipline de feu. Ça leur donne une maîtrise tactique. Ça leur donne de l'expérience. Nous, nous faisons juste des entraînements. Nous faisons des roulades, tout ça, c'est bien. On fait la formation, c'est très bien. Mais sur le terrain, c'est sur le terrain qu'on voit la capacité de nos militaires. Mais nous ne les envoie pas sur le terrain. Quand on les envoie sur le terrain, on les envoie une petite section face à un bataillon de mercenaires UPC. Comment voulez-vous que ces gens-là réussissent? Non, donc vous voyez bien qu'il y a non pas une guerre, comme on veut nous faire croire, une guerre asymétrique. Non, c'est pas une guerre asymétrique. Parce que les éléments de l'UPC, du FPRC, du MPC sont parfaitement identifiés. Ils ont même des tenues. nous avons ici affaire non pas à une guerre asymétrique, mais à une guerre dissymétrique. La différence est qualitative. La guerre dissymétrique, c'est que les moyens dont dispose l'adversaire sont hautement supérieurs aux vôtres. C'est pas qu'ils soient forcément non identifiables, mais on les identifie, mais leurs moyens sont infiniment supérieurs aux nôtres. Nos facas sont très bien formés, mais aujourd'hui, nous avons un problème au niveau de la chaîne de commandement, nous avons un problème au niveau politique. Le gouvernement doit aujourd'hui prendre ses responsabilités par rapport à cela. La défaite aujourd'hui que nous avons vue à Bambari nous impose deux choses. Le gouvernement ne peut plus aller au dialogue en face des groupes armés. Il ne peut plus avoir un face-à-face groupe armé gouvernement. Vous avez vu que déjà, les groupes armés ont pris le dessus. À Bakouma, à Bambari, à Birao, à Bokaranga. Donc déjà, ils ont pris le dessus. En plus, on parle de dialogue politique, mais sans les forces vives de la nation. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, si nous voulons trouver une solution pérenne, fiable, il nous faut impérativement inclure dans le dialogue les forces vives de la nation, société civile, partis politiques, etc., etc.
Je reviens très rapidement avant de laisser M. Montero aller vaquer à d'autres occupations. Qu'est-ce que la MINUSCA a dit au gouvernement pour qu'il prenne cette décision d'aller organiser la JIMA à Bambari?
L'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation est une décision du gouvernement. Nous, notre travail...
Quant à la sécurité de la ville.
Notre travail, c'est justement de contribuer à la sécurisation. Tout à l'heure, j'ai dit en face, nous avons des éléments civils qui sont parmi les populations, etc., d'où la difficulté. Mais je voulais revenir très rapidement sur ces opérations, le fait que les moyens aériens n'aient pas été utilisés. Vous n'êtes pas membre de la structure de la force, vous n'êtes pas membre d'une structure militaire. Ce qui est important, c'est que ces moyens existent et ils ont été utilisés, les MI, et ils ne traînent pas en poco comme cela a été dit en début d'émission. La MINUSCA fait ce travail de manière professionnelle, tous les contingents, en coordination avec les autorités centrafricaines. Et un mot sur les forces de défense et de sécurité, je pense qu'il serait également important de souligner les acquis qu'ils sont en train d'obtenir grâce aux moyens, certes limités, mais grâce à leur formation. Et nous avons des exemples un peu partout. Bangassou, Pawa, Axe, Sibut, Verdekoa, Kagabandoro. Et c'est cela qui a empêché justement la descente du FPRC un moment, en étroite collaboration. Souligner cela, ces forces de défense et de sécurité méritent également tout le respect. Merci.
Merci Monsieur Montero. Pour la énième fois encore, nous rappelons aux auditeurs que le gouvernement devait être sur ce plateau. Malheureusement, il ne s'est pas rendu disponible. Monsieur Joseph Bindoumi, est-ce que les forces de sécurité intérieure ont-elles fait fonctionner les renseignements pour prévenir vraiment de telles attaques? C'est vrai que vous ne représentez pas le gouvernement, mais vous faites partie de la société civile.
Non, je fais partie de la société civile, mais je crois que, vous savez, dans notre pays, nous avons la tradition de la tromperie. Vous savez, nous avons la tradition de la tromperie. C'est-à-dire que on a l'impression que les personnes qui touchent les plus hautes autorités de l'État les trompent tous les jours. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde savait que notre pays souffrait de quelque chose. Tout le monde. Mais quand nous avons entendu des gens partir à Bambari et nous dire que non, tout est fin prêt, que la population de Bambari pense que tout le monde doit être là pour faire la fête et qu'il n'y a plus rien, il n'y a aucune menace à Bambari, et qu'on a envoyé de l'argent pour réfectionner des maisons, pour refaire les routes, etc., etc., ce qui est une bonne chose, mais qu'au dernier moment, on dise que non, il y a eu des missions précurseurs qui sont allées et qui ont constaté qu'effectivement, on pouvait déplacer un chef de l'État, on pouvait déplacer une grande partie des membres du gouvernement, que les ambassadeurs et autres pouvaient aller. Je pense que ça a été de la tromperie. Ça a été de la tromperie parce que tout le monde, moi-même qui vous parle, j'en ai discuté avec au cadre de ce pays, autour de moi, pour dire que c'est des risques. Vous ne pouvez pas, vous savez qu'avec les moyens et la mobilité des hommes aujourd'hui, vous ne pouvez pas amener un gouvernement et un chef de l'État aller dans un endroit où vous savez que à 5 km de la ville, si je prends la plus grande distance, il y a des forces négatives. Et aujourd'hui, pour ceux qui font des études balistiques, comme j'ai écouté du côté de Monsieur Chabaz, vous savez qu'il y a des armes qui ont une plus grande portée. Quelqu'un peut rester là-bas et puis faire du mal à une très grande distance, 2 km, 3 km. Mais on a pris le soin de faire. Et puis, ce que je vais vous dire, c'est que on a tellement fait dans la précipitation que je suis allé hier pour voir les blessés à l'hôpital, mais je me suis rendu compte que les grands blessés que j'ai vus hier, ce sont des blessés qui sont morts par accident de circulation. Parce que nous, on leur a dit partir de Bangui tout de suite pour arriver à Bambari parce que les autres vont venir demain par avion. Et donc, ils ont fait des excès de vitesse et ils sont tombés, il y a eu des morts. Et même quand il fallait rentrer sur Bangui, on a encore fait des excès de vitesse. Il y a encore des accidents trop graves. Donc, la plupart des blessés que j'ai vus hier, c'était pas des... C'est vrai, il y avait quelques blessés par balle, mais c'était des blessés par accident parce qu'il y a eu quelque chose comme une improvisation. Les gens devaient faire la route pour faire une grande vitesse sur une route qu'ils ne connaissaient pas encore. Et je dis que c'est là que je veux venir. On a trompé les hautes autorités de l'État. Si on avait dit aux autres autorités de l'État, écoutez, quand bien même il y a un semblant de calme, mais la menace est là. Nous pensons que nous pouvons annuler la fête de moisson de Bambari, envisager de faire une autre moisson ailleurs, le temps qu'on rassure la population. Moi, je crois que ça aurait été une bonne chose. Et là, nous avons payé le lourd tribut parce que nous sommes allés, et puis comme les malfaiteurs l'ont voulu, la fête n'a pas eu lieu. Et ça, c'est quelque chose d'historique pour notre pays.
Mais selon vous, ces tromperies, c'est pour quel objectif?
Alors, je reviens dans l'histoire. À l'époque du président Kolingba, il y avait des gens qui allaient lui dire que tout ce qu'on veut lui dire, c'est du mensonge, c'est des gens qui sont contre lui. Kolingba est tombé. Quand Patassé est venu au pouvoir, on a mis une coquille autour de Patassé. Et on a dit que toutes les personnes qui disaient à Patassé que fais attention, il y a une menace, que ces gens-là étaient contre le pouvoir démocratiquement élu du président Félix Patassé. Et puis que ce sont des gens qui sont mécontents de son régime, qui sont en train de lui donner ce genre de conseils. Le régime du président Patassé est tombé. Quand le président Bozizé est arrivé au pouvoir, on a eu un cercle qui s'est mis autour du président Bozizé et qui, à l'époque, s'est constitué de libérateurs qui étaient seuls capables de lui dire « Tu es plus fort, tu es plus ceci, tu es plus cela. » Tu as entendu des slogans comme « des Itanti, Kadawala, Kwa, etc. » Et puis, on a conduit le président Bozizé à la chute. Quand Djotodia est arrivé, on a vu les gens venir autour de Ndjotodja pour dire que ça, c'est le clan Séléka qui est venu prendre le pouvoir. Et puis, on a mis une coquille autour de Ndjotodja et Ndjotodja est tombé. Et aujourd'hui, s'il y a encore des gens qui apparaissent, qui disent qu'ils sont des soutiens du président de la République et que c'est eux qui doivent être écoutés, mais c'est un danger. C'est un danger parce que le président de la République est soutenu par qui? Le président de la République est soutenu par le peuple. Il a été démocratiquement élu. Je vous donne l'exemple à votre radio. Si vous regardez un arbre qu'on appelle le bananier, suivez-moi bien, qu'on appelle le bananier. Le bananier, quand il est droit, il n'a pas de problème, mais on ne lui met pas les bâtons pour le soutenir. Mais c'est quand il y a un régime et que le bananier penche d'un côté et qu'on craint que le vent vienne renverser le bananier comme un soutien. Mais le président de la République est élu démocratiquement. Il n'est pas menacé par son peuple. Il n'a pas besoin de soutien, il n'a pas besoin que les gens viennent toujours lui chanter des histoires, y compris de l'induire en erreur. Sinon, on n'avait pas induit le président de la République en erreur. Il aurait dit, j'ai écouté la voix de la société civile, j'ai écouté la voix de mon peuple, je pense que ce n'est pas opportun d'aller à Bambari parce que soit je fais la fête et après quand je retourne, il y a des massacres après moi, c'est que ce n'est pas bien, soit au moment où je fais la fête, on vient massacrer des gens. Ça aussi, ce n'est pas bien. Donc, la meilleure façon, c'est de faire en sorte que je demande mes forces et l'appui des gens avec qui nous avons des accords militaires pour que je sois certain que Bambari est libéré. Et à partir de ce moment-là, je peux aller faire la fête à Bambari. Mais ce que nous avons fait, je crois que les autorités de l'État ont été rendues en erreur, mais ils prendront certainement leurs responsabilités pour corriger ce genre de choses.
Monsieur Karl Blaguet, vous confirmez que le chef de l'État, les autorités de la République ont été rendues en erreur?
Oui, bien sûr, surtout le chef de l'État. Comme l'a dit le ministre Bindoumi, c'était magistrat et puis président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Je vous réaffirme ma colère. Comme je l'ai dit devant Montero, je suis en colère. Ça a été de l'amateurisme. On ne peut pas organiser une fête des moissons dans une localité qui a été meurtrie par des malfrats, par des gens qui ont violé, qui ont brûlé l'église, qui ont attaqué même l'église de Bambari et autres, à l'époque de Matos. Les gens ont une courte mémoire ou quoi. Et rapidement, on dit non, on se dépêche là-bas, parce qu'il y a les frais de mission et autres là. Les gens se sont dépêchés là-bas, soi-disant pour une fête de moissons. Non! La mission précurseur a raté. Je pense que des têtes doivent tomber. Moi, si j'étais le chef de l'État, des têtes doivent tomber. Des têtes doivent tomber. Il faut qu'ils prennent cette responsabilité en plus. Là où nous sommes, est-ce que c'est le moment de fêter des choses? Les gens meurent. Alindao, Bakouma, entre le mi-trimestre 2018 et maintenant, nous rentrons dans 2019. Il n'y a que des morts, des destructions, des viols, des morts. Est-ce qu'il y a quelque chose à fêter? J'aurais été à la place du chef de l'État. Je me serais fait petit. j'allais déléguer des gens et restreindre ça. Il aurait pu faire ça au PK22 ou bien je sais pas où, à Bombari, à Mbaïki ou à Boali. Mais tant qu'il n'y a pas le désarmement, je vous réaffirme en tant que sociologue et observateur de la vie politique, Madame Sylvie Panica, tout ça là, tout ce scénario, c'est de la mascarade. Cohésion sociale, réconciliation, c'est faux. Tant qu'on n'aura pas désarmé de force ces malfrats, ces mercenaires étrangers, ça ne marchera jamais. Et si le chef de l'État, justement, écoute les griots qui sont autour de lui, continue à les écouter, il ne fait pas un changement, dans 2 ans, c'est la fin de son mandat, hein, il n'y aura jamais eu de désarmement. Parce que la kermesse de Khartoum, là, ça va être première étape kermesse. Et après, ça va être Addis Abeba 2 et Bangui 3, partage de pouvoir, amnistie. Mais les malfrats qui sont là, il y a Nouradine qui est là, Dara c'est là, Al-Khatim, et on discute avec ces gens-là. De l'autre côté, on arrête ceux qui ont défendu la nation quand il n'y avait personne, quand il n'y avait pas de faka, quand il n'y avait pas de gendarmes, quand il n'y avait personne. On les arrête. Mais les malfrats, ceux qui brûlent des villages, ceux qui tuent des gens, on dit qu'il faut négocier avec eux à Khartoum. Mais qui ? Ce sont des pays voisins qui ont encouragé la Séléka. S'il vous plaît, il faut qu'on enlève les écailles de nos yeux. On va tourner comme ça dans cette spirale d'autodestruction. 2 ans, ça passe vite. 2 ans, ça passe vite. Regardez ce qui se passe à Pawa, Betoko, au nord à Tissi. Il y a des escadrons, il y a une rébellion, Zakawa, contre des bébés qui rentrent sur notre territoire. Il y a Sidiki qui est surarmé, qui donne son avis avant que les Faka ne rentrent dans soi-disant sa zone de juridiction, tout comme les Daras et Bakoum et autres. Mais le chef d'État contrôle quoi ? À part Mbaïki, Bangui, Damara, Boali. Il contrôle quelle juridiction ? Et vous voulez qu'on continue le dialogue ? Je ne refuse pas l'initiative de l'Union africaine. Mais on sait ce que c'est que l'Union africaine. Donc moi j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour le chef d'État parce que pour la première fois dans l'histoire de la République, nous avons un professeur d'université, chef d'État. Nous avons un professeur d'université, premier ministre. Nous avons des professeurs d'université, ministre. Professeurs d'université, ministre. Mais s'ils échouent, demain le villageois dira quoi ? Intellectuel, intellectuel, intellectuel taré, comme le disait le président Mathieu Kérékou. Non, le chef d'État n'a pas droit à l'échec. Je pense qu'il est temps qu'il puisse nettoyer autour de lui et qu'il puisse mettre en place des alternatives crédibles, madame.
Oui, je crois que notre débat tient à sa fin. Monsieur Chabaz, oui. Fallait-il prendre une décision, l'emporte-pièce d'organiser coûte que coûte la Jima Bombari ?
Merci pour la question. Vous savez que cette question-là est importante dans la mesure où ça nous permet de comprendre en tout cas la façon de penser, le style de gouvernance du président Touadéra. Le ministre Bendoumé nous a parlé du fait qu'effectivement, autour du chef de l'État, il y a des griots qui sont en train de l'induire en erreur. Mais je pense que le mal pour le président Touadéra est plus profond que cela. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement de gens qui le trompent, mais il s'agit d'une vision qui lui est propre. C'est-à-dire que le chef de l'État, pour lui, c'était une victoire de pouvoir organiser ces choses-là. Donc, il faisait coûte que coûte l'organiser. Et dans la vision qui était la sienne, non, je pense que, au-delà de la tromperie, c'est une vision que le chef de l'État a. Il a déjà dit, à plusieurs reprises, qu'il ne veut pas faire la guerre. Il veut former des FACA, mais il ne veut pas faire la guerre. On ne comprend pas pourquoi, quelle était la raison, donc qu'on ait une armée. Donc, rappelez-vous quand même, le 1er mai, il y a eu des atrocités qui ont été commises dans l'église Fatima. Il y avait les défilés, le chef de l'État entend parler de cela. Est-ce que vous pensez qu'il a arrêté le défilé ? Est-ce qu'il a envoyé les forces de sécurité intérieure de défense pour aller sécuriser les lieux à Fatima ? Non. La seule chose qui a été entreprise, c'est d'aller extraire la première dame et de laisser les populations se faire tirer dessus. Quand je parlais tout à l'heure à Monsieur Montero ici de la défaillance technique militaire, nous le voyons. Je sais que Montero n'a pas contesté ni le mode opératoire de la MUSCA, ni le sous-équipement de nos forces de défense et sécurité. Quand Bombari a été attaqué, qu'est-ce qui s'est passé ? Nos soldats sur le terrain, là-bas à Bombari, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont pas une chaîne de commandement localisée, là-bas sur Bombari, mais ici au niveau de l'état-major. Donc il faut appeler l'état-major, que l'état-major donne des consignes. Et quelles ont été les consignes qui ont été données ? Sécuriser les officiels, les évacuer, et ensuite aller se cantonner dans la base de la MINUSCA. La même chose qui s'est passée au 1er mai. Au 1er mai, on tue des gens à l'église Fatima. Au lieu d'aller sécuriser la population, non, on va extraire la première dame et on laisse les gens dans le feu. Quand on a envoyé des contingents à Bokaranga, quand on a vu que c'était chaud, qu'est-ce qui s'est passé ? On a demandé à nos FACA de se retirer. Et à chaque fois, on laisse les populations sur le feu. Donc, c'est pas simplement une question de tromperie, mais c'est une méthodologie, un gouvernement qui, aujourd'hui, ne se soucie pas, disons-le clairement,
de la population. Pourquoi ? Parce que dans leur vision des choses, ils pensent qu'ils sont dans une dictature et qu'ils n'ont pas de responsabilité, de compte à rendre à la population. Vous allez voir que demain, le chef de l'État ne fera pas de discours pour démettre Sarandi, le chef de l'État ne fera pas de discours pour démettre Madame Koyara ou bien Monsieur Lingisara, le Parlement centrafricain n'interpellera pas le gouvernement parce qu'on est dans une bamboula, une république bananière où on peut tuer qui on veut sans que les autorités ne soient émues. Et c'est ça qui est le drame aujourd'hui. Donc, ce n'est pas simplement de la tromperie, mais c'est un mode de fonctionnement. Et jusqu'en 2021, vous allez voir que nous allons continuer à compter les morts. En l'espace de 3 années de gouvernance, nous comptons 50 000 morts au moins, 1 500 000 enfants qui meurent de faim, 1 400 000 déplacés et réfugiés, 2 900 000 Centrafricains qui meurent de faim. Avec tout ça, on dit que non, il faut maintenir le gouvernement, il faut aller au dialogue seulement avec les groupes armés et sans la société civile, sans le parti politique, sans la plateforme. C'est incroyable.
Oui, je finis avec vous, monsieur Joseph Bindoumi. Fallait-il qu'il y ait ces attaques, ces morts pour suspendre l'organisation de la Jima à Bombari?
Non, je crois qu'il fallait suspendre avant. Il fallait suspendre l'organisation de la Jima avant que d'avoir des morts pour suspendre l'organisation de la Jima. D'abord, la suspension de l'organisation de la Jima apparaît comme une défaite. C'est-à-dire que la volonté des gens qui avaient pour but de nuire a été respectée et ils ne voulaient pas d'une fête de moisson. Ils ne l'ont pas eu. Et puis, même si aujourd'hui on pense qu'on les a vaincus sur le terrain, mais au moins ils ont gagné parce que nous n'avons pas tenu cette fête de moisson. Mais là où c'est important, c'est de dire on va encore faire combien de fois comme ça des erreurs politiques de ce genre. Je pense qu'il faut qu'on évite que ce genre d'erreurs politiques arrivent souvent. Je voudrais quand même vous dire ce qui a choqué la société civile, c'est le caractère festif de notre pays. Pourquoi est-ce que brutalement nous voulons faire que la fête? Regardez, quand vous prenez la fête de l'investiture du président au mois de mars, quelques mois après, vous prenez la fête du 1er mai à grand pompe avec son cortège de cadavres. Après le mai, vous vous trouvez le 1er décembre, une fête à grand pompe. Beaucoup de moyens dépensés pendant ce temps à Lindao, ailleurs, les gens pleurent. Et puis on recommence encore en janvier, grande fête. Ça veut dire quoi? Un régime festif. Et puis je voudrais aussi rappeler aux Centrafricains, ceux qui ont les radios et qui captent la télévision étrangère, cette journée mondiale de l'alimentation et de la femme rurale, quand vous regardez à Radio France Inter ou à France 24, vous voyez que c'est des petits discours du ministre de l'Agriculture et puis ça s'arrête là. On ne pose pas des actes qui vont encore mettre en danger la vie des citoyens. Je pense qu'il faudrait qu'on réduise le caractère festif de notre pays. Regardons en face, il y a des gens qui meurent, mettons toute notre énergie pour qu'il n'y ait plus de mort. Et donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons faire la fête si on est sûr que notre peuple est tranquille.
Merci. Prend fin ce débat sur les derniers événements qui se sont déroulés à Bombari, des événements très malheureux. Et pour débattre de cette question, nous avons invité M. Karl Blagué, qui est sociologue et observateur de la vie politique centrafricaine. Nous avons Joseph Bindoumi, magistrat, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Nous avons Vladimir Montero, qui est le porte-parole de la MINUSCA. Et puis nous avons Farid Théoroka Chabaz, qui est le secrétaire général adjoint et porte-parole du parti RPR. Et nous rappelons encore que le gouvernement était invité à ce débat. Malheureusement, il ne s'était pas rendu disponible. À la cabine technique, Herman Nambona, au micro Sylvie Panika, assistée de Armando Yangendi. Nous vous remercions et à la semaine prochaine.